Espace 2, Jean-Marc Falcambello.
Maison des contes et légendes d'Outre-Rhône, Dorena, 16 décembre, 9h du matin.
C'était la maison des Voltaires. Des Voltaires Jourdan. Parce que d'ailleurs, c'est aussi le château. C'est oui. Val d'Hérin.
D'autant plus qu'il y a beaucoup d'images qui ont été mises là, qui viennent du Val d'Hérin, puis c'est l'histoire. Ouais.
Là, il y a un joli fil quand même. C'est le nom, voilà, d'ailleurs. Oui. Et puis tout à coup, ça vous fait penser à l'histoire de cette maison immédiatement. Alors, on y est. Alors, quelle est cette maison? C'est la maison des légendes, ici à Dorena. Voilà, ça, c'est deux allers-retours.
20 000 lieues sur la Terre.
Donc. C'est l'histoire d'une famille aussi, je suppose, quand vous réagissez au nom d'Ayer. Alors, je vous laisse expliquer.
Alors, Béatrice d'Ayer, c'est mon nom. D'Ayer, ça vient du Val d'Hérin, et puis le Val d'Hérin est un terrain de prédilection des légendes, en fait. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans cette maison, vous trouverez beaucoup de légendes du Val d'Hérin. Beaucoup, beaucoup, des rémences, du pic d'Artinol, enfin d'endroits comme ça, de glaciers qui sont de là-haut. Et puis, moi, en fait, je m'appelais Veutet. Et cette maison, elle est liée au Veutet. Veutet et Jourdan.
D'accord.
Alors, voilà, Béatrice d'ailleurs, Veutet.
Nous n'y comprenons pas. Il nous faut bien faire un peu de généalogie pour comprendre l'histoire du lieu qui se mêle allègrement à l'histoire des hommes. Un lieu étonnant. Tout entier dévolu aux contes et légendes et centre d'interprétation des légendes valaisannes. Un lieu qui d'abord est une maison familiale, celle de Béatrice d'Ayer Veutet. Un lieu assurément particulier, peuplé de nombreux souvenirs. Ceux qui résultent des gestes accomplis ici, souvenirs des hommes, et ceux qui transcendent les cultures, les contes et légendes, souvenirs des âmes impersonnelles, vieilles comme le monde. Assis autour d'une table ronde, avec Béatrice d'Ayer et Patricia Pitlou, conteuse, nous remontons les fils agréablement enchevêtrés des histoires du lieu et des hommes.
Alors cette maison, elle est l'émanation en fait, de mon mari qui a vécu dans le Val d'Hérin et puis qui a vécu les veillées avec sa grand-mère qui lui racontait des légendes qui lui faisaient peur.
Ça lui faisait peur, lui.
Ça lui faisait peur. C'était assez terrible. D'ailleurs, il l'a écrit, vous verrez dans la petite chambre ici, il a écrit la terreur que m'inspiraient ces légendes de ma grand-mère, que j'ai toujours en moi, quelque chose comme ça. Alors, comme il est toujours d'ailleurs artiste, il est décorateur, graphiste, il a conçu cette maison à la mort de mon père. Mon père, qui s'appelait Arnold Veutet, il avait fait cette maison, il l'avait gardée en l'état. Et on l'a retrouvée telle qu'elle a été construite.
Alors, en l'état, là, il faut qu'on précise ce que signifie en l'état. Parce que c'est vrai que quand nous sommes dans cette maison, là, on y est à l'instant, en l'état, on pourrait dire, il faut trouver un adjectif, peut-être, on peut en trouver plusieurs d'ailleurs, mais je dirais un peu... telle qu'elle était il y a 50 ans. On a déjà l'impression, rien
telle
que quand...
Au 19e siècle.
Ah, carrément. Telle qu'elle était au 19e siècle. D'où le pied roulaire, voilà. D'où le sol, tout simple, le plancher.
Ouais. Tout à fait. Donc, telle qu'elle était au 19e siècle, puisqu'elle a été construite vers les années 1870, par mes arrière-grands-parents, qui s'appelaient Jourdan.
Et là, vous regardez la photo.
Et là, je regarde la photo.
Oui, on va pas passer cette photo sous silence, c'est magnifique.
Oui.
Alors là, je la tiens, je vois les personnages. Bon, alors, photo typique, pour qu'on se la représente dans notre imaginaire, de cette époque, hein, fin 19e, avec des gens qui ont l'air... presque austère, tous en costume. Il pose, bien sûr. Il y a derrière un paysage tout à fait étonnant. C'est une grande toile. On se rappelle ainsi les photographes qui mettaient en scène. Donc c'est une belle mise en scène. Il y a le personnage central, c'est une dame, assise, qui trône carrément sur un fauteuil, avec l'homme derrière. Ils ont tous la cravate, le col empessé, ils ont la robe longue, voilà. Mais qui sont ces personnages?
Alors, qui sont ces personnages? Derrière, vous voyez, ce sont mes grands-parents. D'accord. Et c'est le jour de leur mariage. C'était d'accord.
De mariage. Approchez-vous, Patricia Pitou, que vous avez envie de regarder la photo, donc allons-y, mettons. On se met à trois, là, pour regarder la photo.
C'était en 1933.
Oui.
Et ça, c'est la maman de ma grand-mère, qui s'appelait Lucienne Jourdon.
Elle qui a les mains derrière dans le dos.
Oui. Voilà. Ça, c'est ma grand-mère, d'accord. qui est toute petite, toute fluette.
Oui,
et puis ça, ce sont les sœurs de ma grand-mère et le frère. Tous ces personnages-là ont habité dans cette maison, y compris... Et là, je vais me lever.
Ah ben alors, levons-nous.
C'est, ça, c'est mon père, il s'appelle Arnold de Vetay.
D'accord.
Et quand il est décédé, on a trouvé cette maison chargée d'objets, mais aussi chargée d'histoire.
Okay.
On s'est dit, tiens, mais il y a entassé tous ses rêves dans cette maison. C'était incroyable, il y avait des saunas, il y avait des meules, il y avait le fusil, il y avait le sac à dos de mon grand-père, il y avait son chapeau, regardez, il est encore là.
Il est sur la petite chaise.
Il est là sur la petite chaise. Il y avait les rideaux qui étaient encore les rideaux de mes grands-parents, imaginez. Mmh. Alors il y avait vraiment, c'était incroyable, ça c'est un meuble que mon oncle a fait, qui est toujours là. Enfin, il y avait plein d'histoires. Puis aussi de son histoire à lui. Il avait entassé des papiers. Parce que mon père, il était parti sur les frontières, garder les frontières, comme on dit. Il était enquêteur aux douanes. Alors, on a beaucoup voyagé. Puis un jour, il est revenu ici, puis il a repris la maison à ses frères et sœurs. Puis il a voulu, quoi, la garder comme ça, telle qu'elle était. Et on est revenu en Valais vers les années 60. Puis lui, je pense qu'il a repris cette maison autour des années 60 ou 70. Je ne sais plus. Quand ma grand-mère est décédée, en fait, à peu près, voilà. Je ne sais plus exactement. Et c'est là qu'il a commencé à revenir à la vie paysanne, puis à se sentir bien dans ces éléments-là. Mais peut-être aussi... Mon père était enquêteur aux douanes, hein, je vous l'ai dit.
Oui.
Donc, il est parti assez tôt pour ça. Il rêvait d'être enseignant, mais il n'a pas pu le faire. Il a dû gagner sa vie rapidement. Alors, étant enquêteur aux douanes, il était très secret. Il ne pouvait pas parler de son travail. Alors, peut-être que moi, j'ai eu envie de que la parole sorte, en fait. Parce que ça me paraît tellement important, cette parole... Et puis, quand on est venu ici avec mon mari, lui, il a dit « Oh, mais ça, c'est une maison des contes et légendes. »
Ah, d'accord. Et là, d'où l'origine, alors.
Et là, et là, il a fait le lien avec les histoires que sa grand-mère lui racontait, dans le Val d'Airain, vous voyez.
Et donc, À partir de là,
l'idée a germé, et on est allé voir les voisins, d'abord, pour voir si un projet de maison des contes et légendes les gênerait, hein, puisqu'on est tout près. Puis ensuite, le président de la commune, les gens du canton, de la culture et tout ça. Et tout le monde a trouvé que c'était un projet original. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce dicton ou cet adage ou quelqu'un qui a dit ça. Innocent, ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait.
C'est très joli. Je ne connaissais pas, mais c'est très joli. C'est une grande aventure, alors.
C'est une grande aventure, oui. C'est une grande aventure.
Une aventure qui prend ainsi place au cœur de la vie d'une famille, mais aussi au cœur de la vie d'un endroit, d'une région. À Doréna, dans la maison des contes et légendes d'Outre-Rhône, nous ne sommes pas bien loin des flancs de la vallée du Rhône, qui s'appuie sur la plaine rectiligne de la rive droite du fleuve. Et comme souvent, les noms des lieux disent à leur manière beaucoup de leur histoire. L'emplacement de la maison où nous sommes s'inscrit à plat sur le papier d'une carte géographique qui, comme il se doit, prend place dans un monde plus grand.
Voilà, Doréna, vous entendez ce nom? Pour vous, ça signifie quoi, Doréna? Ça vous dit quelque chose?
Je trouve beau au niveau de la musique, mais il faut que je réfléchisse une deuxième fois pour réfléchir au sens.
On dit, Doréna, hein, parce que l'étymologie, Doréna. Vous savez, des fois, on dit des choses, puis on ne sait pas si c'est vraiment juste. Alors, on va toujours dire « on dit que ». Ça voudrait dire « de l'autre côté du Rhône ».
Ah, de l'autre, ah, d'accord.
De l'autre, Doréna, de l'autre côté du Rhône.
Ah, voilà. Réna, le Rhône.
Oui. Alors, il y a peu de villages qui sont sur la rive droite de ce côté. Là, il y a le Coude du Rhône, vous voyez, là, il y a Puy. Puis il y a la toute belle région des Folataires qui relie tout ça.
Moi, ce qui me frappe quand même, c'est l'image générale. C'est-à-dire cette espèce de gros massif montagneux, là.
Oui.
Et puis ce Rhône qui fait un coude. Et qui l'encercle, qui tourne autour, bien sûr. Et puis Dorénac, alors, un peu coincé, on va dire, entre le Rhône, voilà,
et aussi les rochers. Absolument. Mmh. C'est pour ça que, finalement, on a trouvé que cette maison, elle nous a soufflé l'idée d'en faire une maison des contes et légendes, aussi comme elle est placée. Puis vous verrez, quand on fera le tour de la maison, qu'il y a des rochers avec une histoire derrière. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des noms aussi, comme ici, Verletto. Ça vous dit quelque chose, ça ?
Du tout.
Du tout. Alors, il le prononce comme ça, Verletto. Mais c'était fait vers la tour. Parce qu'on dit que autrefois, il y avait là une tour avec un seigneur qu'on appelait le sire d'Alès. Alors, Alès, c'est là-haut. Vous avez vu le téléphérique quand vous êtes arrivé ? Eh bien, jusqu'en 1985, le seul moyen d'accès à ces endroits-là, Alès, Champé, La Gietta, en l'eau, etc. Puis ensuite, on passe de l'autre côté sur les lacs de Fuilly, sur lac de Fuilly, on le voit. Hein. Mmh. On peut passer de l'autre côté, on arrive au côté du soleil, là, sur Fuilly, Châtaignier, etc. Eh bien, le seul moyen d'accès, c'était le téléphérique. Mmh. Ils ont fait une route
jusqu'à
à partir
temps,
de
vous dites
1985. Et c'est là aussi qu'il y a des mines dans toute cette région. Tu me dis si c'est juste Patricia. Dans cette région, il y a des mines de charbon et puis d'ardoise. Vous avez peut-être remarqué, en venant dans le village, que plusieurs maisons sont couvertes d'ardoise.
Oui, tout à fait.
Bah, cette maison aussi.
Oui.
Et puis d'ailleurs, des petites ardoises, ils les taillaient sur place parce qu'il y avait des carrières, des mines d'ardoise qui sont toujours là, mais qui ne sont plus exploitées.
Et est-ce qu'on peut alors s'imaginer que cette maison des légendes se veut aussi le lieu où on raconte l'endroit, mais l'endroit au sens large, c'est-à-dire celui que je vois là, par exemple, représenté sur une carte ?
Oui, ça veut...
Oui et non ?
Oui et non. Ça veut raconter les légendes du Valais.
Oui.
Parce qu'il y a, dans le Haut-Valais, par exemple, il y a énormément de légendes liées aux glaciers, notamment, revenants qui reviennent errer sur les glaciers. Ensuite, dans toutes les vallées, notamment le Val d'Anivier, qui a été beaucoup raconté par Bernard Créta aussi. Oui. Le Val des Reins, qui est très chargé de légendes, un terrain propice. Mais c'est vrai que moi, je me suis intéressée aussi à cette région de Doréna. J'ai demandé à des gens qui la connaissent bien, notamment un voisin qui a fait cette carte, un petit bouquin sur Doréna aussi. Et puis, il m'a raconté qu'à Jeurs Brûlés, par exemple,
qui est un lieu-dit aussi. Dans la montagne.
Il y avait, et il n'y a pas si longtemps, et ça, c'est pas de la légende, c'est pour ça que, est-ce vrai, est-ce pas vrai, parfois, on mélange un peu. Mais il y avait un paysan qui avait un âne, et puis cet âne, il descendait la montagne tout seul pour qu'on le charge en bas de choses dont les gens avaient besoin en haut, et puis il remontait tout seul. Et ça, c'est vrai, ça existait. Alors bon, moi, je pense toujours plus loin, je me dis, tiens, ânes, il y a des légendes sur les ânes. Quand vous vous promenez à Alès, Champé, vous voyez des petits panneaux avec un petit âne dessus, et puis c'est marqué chemin de la voûte céleste ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais bien savoir pourquoi il y a ce chemin avec un âne. Ici, tous les 2 ans, on fête la fête de l'âne. À Doréna. Alors tout à coup, voilà, on revient au lieu. On a le mont Rosel par ici. Rosel, ça vous dit quelque
là,
chose
là, ici, mont du Rosel.
Mont du Rosel, voilà. Alors Rosel.
Bon, la rose, bien sûr.
Rose.
Mais franchement, je ne suis pas très bon en toponymie. Hein.
Eh bien, je pense que l'origine, ce serait roseau.
Ah voilà, bien sûr,
Rosel. Vous voyez, si on prend cette carte qui est ici.
Oui, il y a une carte plus vieille.
Une carte plus vieille, elle est de 1926. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses en bleu.
Mmh.
C'est en fait quand le Rhône, Là, il n'y avait qu'une première correction du rôle en 1926, puisque la deuxième, elle a eu lieu en 1930. Hein. Donc, il y avait encore beaucoup de marais. Et puis, les marais, ben, forcément, ça donnait lieu à des roseaux.
Mais est-ce que c'est toujours été une évidente et manifeste passion et intérêt pour vous, que de vous intéresser ainsi à cette histoire, aux légendes, etc. Ou alors, vraiment, vous diriez que c'est l'occasion qu'a fait le larron?
Je suis curieuse de tout, mais très superficiellement. Donc là, c'est un peu l'occasion qui a fait le larron, c'est vrai. En fait, il y a eu aussi un autre élément par rapport au conte. On était une fois à Paris, et puis près du musée du Beaubourg, il y avait un petit théâtre qui s'appelait L'Essayon. Puis là, on était allé dans ce théâtre et on a écouté une conteuse québécoise. Et ça m'avait frappé de voir qu'avec si peu de décors, on arrive à captiver les gens. Moi, je trouve ça extraordinaire. Elle était assise sur une chaise, elle tricotait. Tout à coup, elle lève les yeux et puis elle commence à raconter. Oh, j'étais prise au trip là, du début à la fin. Et puis, bon, puis là, ça, c'est de nouveau quelque chose qui est ressorti au moment de créer ce lieu des légendes.
Oui, mais quand même créé.
Cet amour, ouais. Oui. Cet amour de la parole.
Cet amour de la parole, oui. C'est vrai, c'est lieu dévolu à la parole. Alors maintenant qu'on l'a situé ainsi, ben, c'est vrai que cette maison, moi j'ai envie de la voir, de la connaître, la sentir, parce qu'elle est magnifique. Là, on est dans une pièce qui est peut-être la première pièce qu'on rencontre, c'est la cuisine. Je sais pas, c'était déjà la cuisine à l'époque.
Oui, c'était la cuisine. Mmh. Et là, moi je me souviens, on venait en vacances ici, et quand on arrivait, il y avait ma grand-mère qui était là, en train de mettre du bois dans le feu. Elle était toujours près de là. Oui. Ma grand-mère avait quelques problèmes par rapport aux jambes et tout ça. Donc, elle se mouvait difficilement. Mais elle était là, puis elle avait des yeux pétillants de malice. Et puis, alors, bien sûr, quand on est enfant, on sent les odeurs. Alors, il y avait l'odeur du bois, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mmh. Mais il y avait surtout l'odeur du gâteau aux pommes à la cannelle. Mmh. Avec une croûte épaisse, alors que maintenant on aime bien les croûtes toutes minces. Je ne sais pas pourquoi. Mais là c'était épaisse, ça croustillait. Et puis, ces pommes à la cannelle, j'en ai un souvenir extraordinaire. À tel point que chaque année maintenant, on revient avec la famille, parce qu'il y a encore des frères et sœurs de mon père qui sont vivants. Et on revient ici et puis on se mange du gâteau aux pommes. Ensemble.
C'est très très sympa. Ouais. Je vais refaire une photo de cette cuisine, ça me semble splendide. Et puis comme ça, on pourra peut-être un peu se rendre compte de cette ambiance. C'est vrai que je suppose que beaucoup auront dans leur esprit des images qui reviendront.
Oui,
parce que c'est
aussi
vrai
les
que...
bruits, ouais, bien les sûr. Bruits des cercles,
ouais.
Des cercles qu'on enlève, vous savez, les cercles qui sont sur le fourneau, là, qu'on enlève pour remettre le bois dedans, le bruit de la bouilloire avec l'eau.
Mais moi, je trouve l'idée merveilleuse, c'est que tu aies fait de ce lieu de conte et légende simplement une maison d'habitation qui a gardé tout son aspect d'antan. Tu ne l'as pas modifié, et même à travers, on va dire, l'âtre, les murs, l'odeur, on entend déjà des histoires, même s'il n'y a personne qui parle.
Exactement, on entend des histoires même s'il n'y a personne qui parle, c'est très joli. Est-ce que, par exemple, dans l'organisation de la maison, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer carrément un prolongement à ce que vous venez de dire, Patricia Pitelou, c'est se dire, eh bien, chaque pièce est liée à des histoires plus particulières que d'autres. Est-ce qu'on peut aussi comprendre le parcours à l'intérieur de cette maison comme ça? Là, vous dites oui, hein, Patricia Pitelou.
Moi, je dis oui dans une certaine mesure. Moi, j'ai toujours, puisque je guide des fois dans cette maison, j'ai toujours un problème. J'arrive à trouver des thèmes particuliers pour chaque pièce, sauf pour le grenier. Alors maintenant, j'ai trouvé une parade. Au grenier, on va se déguiser. Et dans les autres pièces de la maison, on va compter.
Ah, d'accord.
Mais c'est vrai, là.
C'est marrant, ça.
C'est un problème, toujours, quand j'arrive au grenier... C'est une salle, et d'enfant, moi, je m'imagine enfant, on avait peur, ou quand on rentrait à la cave, il faisait sombre, quand on allait...
Mais au grenier, c'est les lieux d'effroi, c'est vrai.
Voilà, mais on allait au grenier, je ne sais pas, Béatrice, toi, tu allais au grenier, tu allais...
Moi, au grenier, quand on y allait, on découvrait tout ce qui était mis là-haut, hein.
Voilà.
Donc les objets, des paillasses, des trucs, des sonnettes, des sonnailles, des grosses cloches, des tas de
vous
trucs
aviez
comme
peur,
ça.
Vous aviez
peur? Non, pas vraiment. Non, j'étais plutôt fascinée un peu par le grenier.
Ouais.
Ouais. Mm-hmm. Puis on pouvait jouer, surtout, c'était chouette.
On pouvait jouer. C'était un lieu
Ouais, ouais.
C'est vrai.
Ouais. C'était le théâtre. Le grenier, c'était le théâtre.
Un grenier, c'est le théâtre.
Voilà.
C'est
mais
vrai.
C'est un mélange de tout. Tandis que dans les pièges, je trouve que la cuisine, ben, y a l'âtre, il y a le feu, il y a l'odeur de ton gâteau aux pommes. Dans la chambre, il y a l'histoire des gens. Regardez ces petites chambres, ils étaient des enfants, des familles très nombreuses. Ouais. Ils n'avaient qu'une petite chambre. Il y a un côté aussi qui est différent. La cave, on va aller tout à l'heure à la cave, c'est une merveille.
Ouais.
C'est sombre, on relate la nourriture. Après, on va à l'escalier, elle va nous expliquer l'escalier qui est extraordinaire. Et puis, la petite porte secrète de l'escalier, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Je pense que le ré... C'est vraiment très évocateur. Vous verrez, il y a des thèmes qui sont très précis. Je dirais qu'ici, le premier état, ça a vraiment été dévolu à tout ce qui est recherche quand même écrite qu'on a trouvée ou des paroles qu'on a écrites. Et puis, par contre, c'est plutôt le lieu qui peut nous... Moi, je trouve que pour les jeunes qui viennent ici et qui voient comment a été conçue une maison d'époque, c'est quand même super. De voir qu'il n'y avait qu'une cuisine petite comme ça, puis ils étaient 15, et puis il y a des choses comme ça qui ressortent. Aussi le côté, moi...
Bien sûr, mais ce n'est pas pour autant un musée, c'est ça qui est particulier.
Non, c'est pas un musée.
On ne vient pas ici dans une cuisine. Moi, je n'ai pas l'impression d'être dans un musée du tout.
Non, c'est plein de musées en Valais. Hein. On n'a pas vraiment voulu faire un musée avec les objets anciens qu'on trouvait et tout ça. On les a laissés là. Mais on n'a pas été les chercher pour montrer un musée. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça.
Est-ce que ça serait juste de dire que c'est une maison théâtre, dans le sens c'est une maison support de l'histoire?
Oui, certainement. Oui. Oui. Une maison support de l'histoire, de vie, de gens, tout simples, qui ont habité là, qui ont vécu comme d'autres gens vivaient à l'époque.
Oui. Alors, donc, la maison, elle n'a de sens que si on la raconte, l'histoire.
Oui, en effet. Oui, je pense. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a beaucoup de légendes qui viennent du Val d'Airain au départ. Et puis, après, petit à petit, on en cherche qui viennent d'ici aussi. Et puis, on en trouve encore plus loin. Vouvry, quand vous entendez Vouvry,
la Vouivre, bien sûr.
Donc, on la verra en bas, voilà. Il semble que ce nom ait donné le nom de Vouvry. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, je ne sais pas. Mais...
C'est vrai, bien sûr, dit la conteuse.
Non, mais c'est vrai.
Poursuivons.
Si on vient dans cette pièce, par exemple, la pièce principale, c'est ici donc les veillées comptées se faisaient. Et moi, j'imagine bien que la grand-mère... Voilà, il y a le Pierre-Rollet. La grand-mère qui était là, toujours assise, qui était ta grand-maman qui se tenait chaud. Je suis sûre que les plus petits, qui certainement lui tournaient autour, elle leur racontait des histoires.
Ben certainement.
Donc c'est une pièce où on racontait des histoires. Ici, on racontait des histoires.
On racontait quelles histoires, là ?
Alors c'était, en principe, c'était avant d'aller se coucher. Donc, on essayait de calmer un petit peu
calmer le jeu.
Hein. Puis après, quand
on calmait comment
?
On voyait arriver avec les gros souliers, non ? Boum.
Oui, alors, par des histoires plutôt douces et gentilles, sûrement.
C'est vrai ?
Oui, et
lesquelles ?
Puis... par exemple, je vais devoir la raconter.
C'est maintenant.
Bon, alors, c'est maintenant. Alors, par exemple, à la veillée d'hiver, en soirée... Il fait très froid. On peut raconter, par exemple, l'histoire de l'origine du Guy et du Hou. Alors, cette histoire se passe il y a très longtemps. C'est l'histoire d'un homme qui était marchand et de son épouse. Et ils ont eu la chance d'accueillir dans leur nouveau foyer une jolie petite fille. Le père négociant était très souvent en voyage. Et malheureusement, l'hiver suivant la naissance de cette petite fille, la maman tombe malade et décède. La petite fille se trouve toute seule, mais par chance à côté... Il y a une jeune femme qui est d'accord de prendre cette petite fille sous son toit et de la garder jusqu'au retour de son papa. Et en fait, depuis ce moment-là, la petite fille partage son temps entre la gentille voisine et puis quand son papa il est là, ben elle revient à la maison. Quelques années après, quand le deuil est passé, le papa décide de marier la gentille voisine. Seulement, il se passe quelque chose de terrible après ce moment-là. La nouvelle maman, la belle-mère de cette petite fille, devient une vraie marâtre. Au moment
elle se transforme.
Elle se transforme.
Elle était gentille au départ.
Et oui. Mais seulement,
Je suppose que quand le papa revenait, peut-être il avait un petit peu plus d'attention pour sa petite fille que pour sa nouvelle maman. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient exécrable. Quand le mari n'est pas là, elle est affreuse avec cette petite fille qui doit tout faire. Elle doit nettoyer, elle doit se lever de bonne heure, elle doit préparer le déjeuner, elle doit aller allumer le feu, et puis de temps en temps, elle va à l'école. Et nous voilà à la veille du 31 décembre. Ce matin-là, le 31 mai, la maman réveille la petite fille de bonne heure et lui dit « Alors maintenant, il va falloir que tu nettoies bien mieux que d'habitude. Ce soir, c'est le réveillon. Je veux que tout soit en ordre ici. » La petite fille, elle se lève et bien sûr, très gentille, elle met tout en ordre. À 3h, la maman vient et constate qu'effectivement, tout était vraiment en ordre. Mais la maman lui dit « Ça ne suffit pas, ma chère. Ce soir, c'est fête. Il me faut des fleurs pour embellir cette maison. Alors, va me chercher des fleurs. » Vous imaginez, un 31 décembre, un hiver très froid, recouvert d'un immense manteau de neige. La petite fille dit « Mais maman, mais je ne trouverai pas de fleurs. Comment tu veux que je trouve des fleurs? Ça m'est égal. Je veux plus t'entendre. Sors d'ici, va me chercher des fleurs. » Alors la petite fille, elle s'habille, elle met son manteau, ses moufles, son bonnet. Elle sort et puis elle traverse le jardin. Puis arrivée à la sortie du jardin, elle tourne la tête.
Là, plus loin, là, à travers la fenêtre.
Regardez là-bas.
Oui,
là-bas. Elle voit mais une fleur qu'elle avait encore jamais vue. De magnifiques fleurs d'argent et de diamants qui scintillent. Alors elle se précipite, elle prend une brassée pleine de ces belles fleurs. Elle rentre à la maison. Elle dit « Maman, maman, viens vite, j'ai des fleurs extraordinaires, tu n'en auras jamais vu de si belles. » Mais malheureusement, ces fleurs n'étaient que de glace. Et du temps que la maman arrive pour voir ces belles fleurs, elles avaient fondu et elle n'avait plus que dans les mains de malheureuses tiges toutes sèches. « Qu'est-ce que tu m'as ramené là? Et puis maintenant tu es toute mouillée. Va te changer et va me chercher des fleurs. » Alors la petite fille se change et elle ressort en pleurant. En passant au fond du jardin, là-bas, elle ose peu tourner la tête, le soleil s'est baissé, et qu'est-ce qu'elle voit? Ces belles fleurs de diamants et d'argent, tout à l'heure, c'était devenu des fleurs de rubis au soleil couchant. Elle n'ose pas les regarder. Elle va plus loin. Elle va tout au fond du verger. Au fond du verger, sous un pommier, elle lève la tête, et qu'est-ce qu'elle voit? Oh, une boule de feuilles au milieu d'un pommier. Mais s'il y a des feuilles, il y a sûrement des fleurs. Alors la petite fille grimpe dans l'arbre. Quand elle arrive en haut, elle regarde ses fleurs. Oh, les traîtresses! Aucune fleur sur ces vilaines feuilles vertes. Alors la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à pleurer. Et ses larmes coulent sur ses joues et il fait tellement froid qu'elle tombe sur les jolies feuilles vertes et elle se fige en de magnifiques perles. Et la petite fille, quand elle voit ces petites perles blanches sur cette boule de feuilles, elle se dit « Oh, mais ça pourrait être des fleurs, je vais les ramener pour moi. » Alors elle coupe la jolie boule de feuilles. Elle les met sur son cœur et elle se laisse glisser au fond de l'arbre. Et entre-temps, la nuit était tombée. Et qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle? Des yeux qui brillaient. Une horde de loups tout autour d'elle. Elle se met à crier « Maman, maman, au secours !» Mais les loups la pourchassent. Elle voudrait rentrer dans la maison, mais les loups la chassent, la poussent à l'intérieur de la forêt. Et la petite fille court, court en criant. Tout d'un coup, elle arrive au milieu d'une immense clairière. Et là, dans le ciel, Tantari, avec son grand cheval et son grand traîneau de cadeaux, voit la petite fille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit la petite fille arriver vers un arbuste et Tantari dit à l'arbuste, « Arbuste, ouvre-toi !» Et l'arbuste ouvre ses branches. Et la petite fille, comme les bras tendus d'une maman, se précipite à l'intérieur de l'arbuste. « Arbuste, ferme-toi !» Et l'arbuste referme ses plantes. « Arbuste, couvre-toi de feuilles, rasantes comme des rasoirs et piquantes comme des aiguilles. » Et là, la dame blanche s'en va. Et les loups arrivent en courant. Ils veulent se précipiter sur la petite fille. Mais ils se font piquer les lèvres, couper les pattes. Et des gouttes de sang giclent et tombent sur les belles feuilles toutes luisantes mais toutes piquantes et se figent en de petites baies rouges. Et entre-temps, la maman, restée à la maison, commence à avoir des remords. Elle se dit « Ah quand même, j'ai été trop dure. Puis cette petite fille d'enfant, elle m'a rien fait. J'ai vraiment été méchante, je ne sais pas pourquoi. Mon Dieu, faites qu'elle revienne. Si elle revient, c'est promis, je la chérirai comme ma propre fille. » Et voilà qu'arrive le mari. Où est ma fille? Et la jeune femme avoue ce qu'elle a fait. Alors le papa prend un fusil. Et c'est facile, il suit les traces de la petite fille et des loups dans la forêt. Il traverse la forêt, il arrive dans la clairière. Et là, il voit la petite fille qui est à l'intérieur du buisson, entourée de cette meute de loups. Il tire un coup de fusil et là, les loups s'en vont. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il découpe, il est obligé de découper toutes les branches autour de la petite fille pour qu'elle puisse sortir, puis il les pose comme ça sur la neige. Puis la petite fille, quand elle sort, elle dit « Oh, mais papa, regarde, ces belles branches avec ces baies rouges, ça pourrait aussi être des fleurs, il faut les ramener pour maman, elle sera toute contente. » Alors le papa prend gentiment toutes ces branches, et puis ils s'en vont, ils se retournent à la maison. Et quand ils arrivent à la maison, la maman attend la petite fille sur le pas de la porte. Elle dit « Oh, mais tu m'as amené du gui, c'est merveilleux !» Et elle suspend le gui au-dessus de la porte, prend la petite fille dans ses bras et la serre très fort et l'embrasse. Et c'est depuis ce jour-là que la coutume veut que l'on s'embrasse toujours sous un bouquet de gui. « Oh, et puis tu m'as aussi ramené du houx, mais c'est merveilleux !» Cela fera une merveilleuse décoration de table pour notre 31 décembre. Et maintenant, vous savez tous que les fruits du gui sont des larmes d'une petite fille et que les baies de houx sont du sang de bœuf.
Dans la maison des contes et légendes d'Outre-Rhône, à Doréna, avec Béatrice Daillère-Vetet et Patricia Pitlou, pour 20 milieux sur la Terre, sur Espace 2.
Parce que la pleine lune a les yeux rouges, regarde-la, la pleine lune a les yeux rouges, c'est à cause de toi. C'est une chanson de Maxime Piolo. J'ai l'impression que on ne regarde plus forcément la pleine lune, on ne regarde plus forcément... Enfin, ce qu'on a voulu très modestement, c'est peut-être redonner l'envie de raconter, se raconter, et parce que la télé prend beaucoup de place dans les familles, je crois, dans les couples aussi, le Nintendo chez les enfants, enfin, voilà, et je pense que pour les histoires, c'est pareil. C'est peut-être que maintenant, il faut peut-être un lieu pour refaire redémarrer tout ça. Encore que je suis presque sûre que toutes les grands-mères ou tous les parents racontent encore des histoires à leurs enfants.
Non, mais mine de rien, vous donnez un cadre.
On donne peut-être un cadre, un support, une impulsion.
Mais bien sûr. Voilà. Et puis alors, moi j'ai envie de... Tac, c'est une transition, mais c'est vrai que quand on arrive dans cette pièce... On voit quand même, on va aider le visiteur à sentir ces histoires. Je vois l'avare, le braconnier, le capitan Majora.
Capitaine.
Okay.
C'est du patois. Oui, c'est le capitaine.
Captain. Et puis, il n'allait pas à la messe, le bon sorcier. Donc voilà, simplement pour dire que vous suggérez des histoires. De l'autre côté, on voit roi et héros. Alors là, on est dans les personnages mythiques. Géants, ogres et ogresses, fugitifs, hors-la-loi, anti-héros. Et puis l'ours, le loup, les loups-garous et les autres. Et puis une table.
Les animaux mythiques. La vouivre, le dragon.
Magnifique. Voilà, une table où en fait, vous ouvrez... Et puis on voit les serpents.
On en a parlé tout à l'heure.
C'est vrai. Alors là, je sens que je vais faire une autre photo pour qu'on voit de quoi on cause. Parce que c'est une table assez particulière. Et c'est une table à histoire. Donc voilà, c'est génial ça, une table à histoire. Il faut faire breveter. Une table à histoire. Donc il suffit d'enlever les petits panneaux et puis on voit apparaître les histoires. Alors, l'idée ici, que je comprenne bien, Béatrice Daillère, c'est que le visiteur arrive, bon, il voit en plus au pied du pierrolaire, il voit toutes sortes de livres, et puis il s'installe, et puis il commence, voilà, il regarde, comme moi je suis en train de le faire, et puis il voit une histoire, et puis, tac, il la lit. C'est ça l'idée?
Il peut la lire, oui. Ça dépend un peu aussi on peut la lui lire, puis on peut lui dire, ben voilà, tu vois, c'est ça qui se racontait, ou que les grands-parents racontaient à leurs enfants quand ils étaient petits, ou peu importe, qu'ils se racontaient ça entre eux à la veillée, au coin du feu. Et c'est ça. Et pourquoi? Alors après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, mais pourquoi ils racontaient des choses comme ça? Parfois, ça fait peur, hein?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant que vous arriviez, on se disait, c'est vrai, mais cette légende et ces contes valaisans sont toujours très, très noirs. Mais il y a une histoire, hein? Mais c'est dans tous les pays au monde, c'est l'évolution, ben déjà, la lumière. Tout ce qu'on voyait quand on n'avait pas de lumière, quand on avait la bougie qui évoque des ombres, beaucoup. Maintenant, on a plus.
Ça. Non, mais c'est vrai que c'est très important de le dire, ça, la bougie. Oui. Parce qu'il faut quand même faire un petit effort de conceptualisation et se rendre compte que les gens ont juste vécu pendant des mais des centaines d'années, on peut peut-être même dire des milliers d'années, ne voyant pas ce qu'ils avaient au plafond, voilà, ni sur plus loin de 2 mètres, quoi, s'ils avaient une maigre bougie dans une pièce.
Et une chèvre qui passait dans la nuit au clair de lune, c'était la Schnogoud, ces fameux revenants qui venaient, ces âmes errantes.
Schnogoud, vous avez dit?
Oui, c'est les âmes errantes, les gens qui étaient décédés, mais qui n'avaient pas été tout à fait corrects et qui n'avaient pas encore accès au paradis.
Alors donc, on va visiter peut-être les autres pièces aussi.
Mm-hmm. Emmène-nous à la chambre, au lit. On commence par les garçons, les filles.
Les filles.
Oh, voilà, plus petites.
C'est les filles qui dormaient là.
Il y avait 2 filles.
Oui. Donc là, dans la réalité, parce que dans c'est intéressant, parce que quand vous dites quelque chose, Béatrice, moi je suis toujours en train de me dire, mais attends, voilà, il y avait 2 filles qui dormaient là, ça fait partie de la mise en scène ou c'était l'histoire vraie de la maison?
C'est l'histoire vraie de la maison.
D'accord, il y avait deux filles ici.
C'était mes tantes qui dormaient là, oui, mm-hmm. Ça c'était leur coin.
C'est petit, puis, hein?
Oui, c'est petit, ah oui. Et puis alors, maintenant ça c'est la légende, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, Michel
Daillet, hein,
c'est lui donc qui a conçu cette maison.
Voilà, alors,
ils sont de lumière et d'ombre. Si leur vie a été bonne, ils ont la transparence du cristal. S'ils ont été de mauvaise vie, longue sera leur errance. Elle parlait tout à l'heure, hein, oui, de la Schnogoud qui erre. Vêtus de hardes tirées de leur cercueil, condamnés à errer jusqu'à l'expiation de leur faute. Ils ne sont pas vraiment méchants, puisque les uns sont bons et les autres tendent à l'être. Pourtant, pour nous vivants, ils incarnent la peur. Je les ai rencontrés enfants, grâce à ma grand-maman. Si je ne me souviens ni des mots qu'elle utilisait, ni de l'allure qu'ils avaient, je porterai en moi, jusqu'au jour de les rejoindre, l'épouvante qu'ils m'inspiraient.
Mmh, beau poème. Ouais, c'est,
mais ça, c'est chargé.
C'est vraiment chargé, mais c'est vrai, ouais. C'est tellement vrai.
Mais maison expiatoire aussi, d'une certaine manière.
Moi, j'ai l'impression.
L'idée, c'est pas vraiment que de ramener les gens à ces légendes qui faisaient peur ou de leur faire peur, mais de se dire, mais comment ce qu'ils faisaient, et puis comment faire aussi pour sortir de là, pour sortir de la peur, pour vaincre, pour affronter la réalité, en fait. Alors voilà, d'où cette envie de la parole.
Moi, j'ai envie de juste dire ce qui se trouve sur ce lutrin. Pourquoi ? Parce que les titres d'histoire sont très beaux. C'est « Comment est-ce dans l'autre monde ?» et « La Dame Blanche ». Alors, ça fait pas penser à ces personnages qu'on dit « La Dame Blanche ». Alors ça, c'est, on pourrait dire, transculturel. En tout cas, c'est transrégional. On la retrouve partout, « La Dame Blanche ». Donc, cette maison, c'est aussi peut-être le lieu d'évocation des grandes figures mythiques de l'histoire populaire. Non ?
Oui, aussi.
Je crois, non ?
Oui, aussi. Si on passe dans l'autre pièce, vous verrez...
Puis la galerie de photos, hein. Là, elles nous poursuivent partout, ces photos, c'est des photos avec une sorcière qui se retrouve sur les glaciers, qui se retrouve sur les rochers, c'est génial cette histoire et cette idée surtout d'avoir mis ces photos qui nous poursuivent ainsi, qui nous accompagnent tout au long de cette visite de cette maison, non?
Oui, puis on les retrouve aussi dans l'escalier.
Oui, c'est vrai.
Vous verrez tout à l'heure qu'elle... Bah, elle passe un petit peu dans les endroits effectivement porteurs d'histoire, ou le pont du diable, la tour des sorciers à Sion, et puis elle finit dans l'eau, et on ne voit plus que son chapeau.
Voilà. Et donc on arrive dans une autre pièce, et c'est en rapport avec ce que je vous disais il y a un instant sur le personnage ou les personnages mythiques de l'histoire populaire.
Oui. On a vu tout à l'heure la table des animaux mythiques, maintenant on voit par exemple les fêtes. Les fêtes des saisons.
Ah oui, voilà, alors le printemps.
Le printemps, l'équinoxe du printemps.
Février.
Imbolc. Connu sous la fête de février ou la chandeleur, la fête de l'hiver.
Décembre,
Yule.
Une fête des feux du besoin qui allait devenir le Noël chrétien et être fixée le 25 décembre.
Voilà.
Voilà, la fête des fous. La fête de l'âne.
On parlait de l'âne.
Ah oui, alors voilà. Hein? Au XIIe siècle, on célébrait dans les églises la fête de l'âne. On encensait cet animal biblique et l'ânesse de Balaam, qui prophétisait la venue de l'astre issu de Jacob, ainsi que le compagnon du Sauveur, tant à la crèche que lors de la fuite en Égypte. Là encore, la fête dégénéra. Dégénéra ? Pourquoi là encore la fête dégénéra ? C'est pour dire quoi ?
Moi, j'ai l'impression que là, c'est un lien avec la Bible, en fait. Mm-hmm. On voit souvent dans les écrits de la Bible que les fêtes dégénèrent. Les fêtes, les anniversaires et tout ça.
Et puis,
mais dégénère dans quel sens? Juste qu'on comprenne bien.
Dans le sens de...
Une perte d'authenticité, c'est ce qu'on en entend par dégénérescence?
Pas seulement ça, de moralité.
De moralité.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que ça devient un peu orgiaque,
voilà,
c'est ce que vous entendez?
Exactement. Alors, le lien entre la religion puis les légendes et la moralité, on faisait peur aux gens pour pas qu'ils deviennent immoraux. Hein,
oui, mais pourtant, pas qu'ils deviennent immoraux, mais... Oui, dites-moi.
Si on prend... regardez ici, on a une petite légende qui se passe... voilà, on est de nouveau dans les lieux tout près d'ici, il y a en l'eau d'Alès, hein, c'est pas loin d'ici.
Alors l'eau d'Alès, l'apostrophe AU.
Oui.
Particulier, ça veut dire quoi, l'eau?
Le haut.
Tout simplement.
Ouais, je pense. Écoutez, je crois, hein. Dis-moi, tu
Patricia...
penses que c'est autre chose, Patricia,
je voudrais te contredire, ça veut dire l'alpage. C'est l'alpage.
L'alpage.
O-A-U-O, c'est alpage, comme la vieille. A, un A tout seul, majuscule oui. A, c'est l'alpage, c'est l'alpe. A-U, voilà. C'est A-U, ou A, c'est l'alpe,
d'accord.
L'alpage.
L'alpage, oui. Très bien. Alors, revenons alors à l'alpage, vie proche des esprits, il y a en l'eau... d'Alès, et oui. Je vous laisse poursuivre. Vous vouliez me dire quelque chose, Béatrice,
oui.
D'ailleurs, par rapport à la moralité.
À la moralité. Alors, la légende raconte que trois sœurs voulurent aller danser à la fête sur l'Alpe à Sornio, qui est aussi là-haut, malgré l'interdiction de leur père, et qu'elles furent pétrifiées pour lui avoir désobéi. Imaginez qu'on raconte ça
donc,
aux jeunes filles. Voilà, c'est ce rocher. Hein, il existe, voilà, il est là-haut, en l'eau, à l'alpage d'Alès. Ouais. Donc imaginez qu'on raconte ça aux jeunes filles qui ont envie d'aller danser.
Donc histoire est différente dans ce cas-là, histoire moralisante.
Voilà, moralisante, oui.
Oui, mais alors il y a aussi, d'accord, ça c'est une des fonctions de l'histoire, mais en même temps il y a aussi toutes les autres fonctions qui sont les fonctions, par exemple, transgressives, parce qu'on raconte aussi que c'est parfois la désobéissance qui va amener à la connaissance, etc., ou... On pourrait trouver beaucoup de modèles. Et est-ce que vous, justement, est-ce que vous avez aussi essayé de faire que dans cette maison, on répertorie les types d'histoires?
Alors, l'idée, c'était, entre autres, oui, on a démarré avec la bibliothèque cantonale qui nous a répertorié 400 légendes valaisannes, pour
d'accord.
L'instant.
Okay.
Et ça, on aimerait
donc,
continuer.
Lieu conservatoire aussi,
voilà.
Alors.
Sauvegarde du patrimoine oral.
Voilà, c'est un but.
C'est un but, c'est notre mission aussi, oui. Puis on aimerait bien continuer cette mission dans le sens de, peut-être, pourquoi pas, là, en ce moment on ne l'est pas encore, mais pourquoi pas devenir un centre de référence ou de compétence sur les légendes, faire pourquoi pas aussi plus tard des légendes comparées, parce qu'on voit que c'est intéressant hein, de trouver des personnages, comme vous parliez de la dame blanche qu'on trouve
bien
ailleurs,
sûr.
On parlait du serpent, on le trouve dans tous les pays, on parlait de...
Mais alors rêvons, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour Doréna devienne... Mais alors rêvons, hein, franchement, rêvons.
Mm-hmm.
Mais est-ce que Doréna pourrait alors, dans ce cas, devenir un lieu hautement réputé, lieu d'étude des histoires orales, et donc lieu transdisciplinaire où on y retrouverait des anthropologues, des ethnologues, des linguistes, des recherchistes dans tous ces domaines?
Ça, j'aimerais beaucoup. Mmh. Ah oui, ça, c'est un rêve, alors. Oui, tout à fait. Il y avait déjà une ethnologue qui est dans notre association. Il y a plusieurs gens de la culture qui s'intéressent. La personne qui a sorti cette histoire-là est un littéraire aussi. On a eu pas mal de gens qui se sont intéressés, des psychologues aussi. Hein. On a la Valterio, c'est un psychologue.
Ah oui, Saint-Ouero qui signe un panneau Saint-Ouero. Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a ainsi des beaux panneaux. Transgression et châtiment.
Et châtiment, effectivement. Voilà, vous parliez des transgressions.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Transgression et châtiment. Mm-hmm. Non, c'est magnifique, hein. Donc très riche, d'accord. Donc vous avez, c'est important de l'avoir dit, je pense. Donc lieu conservatoire des histoires et lieu d'étude, peut-être un jour, de manière systématique, étude de ces histoires.
Oui.
Voilà. Et lieu en même temps en lui-même, c'est-à-dire porteur de sa propre histoire, qui est l'histoire familiale de la maison. C'est quand même incroyable. C'est des poupées russes ici. Hein, c'est des histoires dans les histoires. Non mais c'est vraiment marrant. Alors on va poursuivre peut-être notre fil qui est l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire première qui est celle de la maison et qui nous fait sans cesse déboucher sur toutes autres histoires. Alors on va monter, je crois.
Oui.
Alors montons. Vous parliez des odeurs, en voici de bonnes. Hein.
Alors voilà, on est au paradis. Hein.
Je vous vois gratter le feu, donc je vous prends une petite photo. Vous êtes très très bien, mesdames. Oui, Béatrice, d'ailleurs, vous dites, voilà, nous sommes au paradis.
Nous sommes au paradis, hein.
Magnifique, cette pièce. Il va falloir qu'on la décrive. On va la décrire. Donc, on est dans un grenier, magnifiquement restauré, mais très simple. Hein. Donc, planche de bois, sapin. Toute simple, voilà. Ouais. Voilà. Le toit apparent, avec les poutres.
Bon, c'est le lieu, vous voyez, des poufs, vous voyez des chaises. C'est le lieu où on raconte.
Les
on
fauteuils aussi.
En bas.
Les fauteuils, c'est un lieu de conte, alors. Donc, c'est un lieu de représentation, on pourrait dire.
Voilà. Okay. Alors, il y a les conteurs de scènes, on les appelle comme ça. Et parfois, il y a des enfants qui se mettent, qui ont envie de raconter, qui se mettent aussi à raconter.
C'est vrai, spontanément.
Bon, oui, ça dépend si on le leur permet ou pas.
D'accord, oui, c'est
mais
ça.
On a eu organisé des contrées où les enfants pouvaient venir raconter des histoires.
Alors, à partir de là, je suppose qu'on va redescendre, on n'a pas
oui,
d'autre choix. Hein. Puis en plus, je vois que vous avez un peu frais, hein. Mais c'est ça. Voilà, puis on retrouve ces photos extraordinaires. Absolument, c'est les photos de la sorcière qu'on voit donc des glaciers jusqu'au Rhône. Et qui sont un peu partout dans cette maison, des belles photos noires et blanches. Donc là, Patricia Pitelou, on va descendre jusqu'aux enfers.
Aux enfers, ouais. C'est la cave. C'est extraordinaire, vous verrez.
C'est vrai, vous
les enfants
bien.
Voudraient toujours rester que là-bas.
Et pourquoi?
Ben, vous allez voir.
Toi aussi.
Allez, habillons-nous.
C'est carrément la mise en scène, cette fois.
Génial.
Puis je laisserai peut-être Patricia guider à sa manière.
Parce que très bien.
J'aime bien comment elle le fait. En plus, elle a l'accent.
Et voilà, puis là, on arrive en bas. Là, hein. Nous sommes en fait arrivés au niveau de l'entrée ici.
Oui, oui.
Alors très bien, allons-y.
Allons-y, parce que toi, les
cartes. Voilà. On passe. Oh, mais c'est extraordinaire. Voilà, on passe. Non, mais c'est.
Il y a le vieux Joseph encore.
Qu'est-ce qu'il y a,
le
vieux Joseph avec sa souris.
Donc on passe un rideau.
Puis on arrive dans une cave.
Puis on entend du son en plus.
Oui. Et les oiseaux. De l'eau, des oiseaux. En fait, ça c'est un grand secret. Mais on ne va pas vous envoyer là, mon cher monsieur, parce qu'on risquerait de plus jamais vous voir et puis on ne pourrait pas écouter notre émission. Vous voyez ce personnage qu'il a derrière? C'est ouais. Le vieux Joseph.
Impressionnant, le vieux Joseph.
Très impressionnant.
Gros nez, les oreilles franchement
bien
dégagées.
Une petite souris sur le chapeau.
C'est vrai.
Un joli tsapé, comme on dit en patois. Puis derrière, une porte. Ces bruits viennent de cette porte.
Attends, je peux m'approcher? Il ne faut pas trop.
Si vous descendez là, vous ne reviendrez jamais. Mais vous pouvez essayer si vous voulez.
C'est vrai que vous me tentez.
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Excellent.
Non, alors là, la cave, avec, regardez, la sorcière qui est en
train de préparer
une magnifique soupe. Avec qu'est-ce qu'on met dans une soupe de sorcière élémentaire? Du jus de chaussette. Quoi encore?
Des crapauds.
Des yeux de grenouille. Regardez, ça dépasse. Regardez, ils ont même laissé
Ouais, ça dépasse. Hein.
Ça dépasse de partout. Hein. Les cuisses de grenouille,
ce soir. J'ai plus envie.
Est-ce qu'ils ont peur, les enfants, quand ils arrivent ici?
Ah ouais, c'est sûr. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment, c'est le début de la visite. Les enfants, quand ils arrivent, là, déjà, ben, ça brille. Il y a cette sorcière qui est là, les bras levés, vous avez vu, avec
ses
dents allongées, ses ongles crochus. Et puis, quand même aussi, comme l'a voulu Béatrice, reste aussi le décor. Ça, ça a été.
Ouais, c'est le mélange des deux, c'est de nouveau, hein. c'est l'histoire de la maison elle-même, familiale.
L'illustration des contes et légendes, et puis derrière, on voit un magnifique tabla, avec dessus des ustensiles de la cave, là où on mettait le fromage,
Les dames Jeanne, bien sûr, les dames Jeanne.
Elles sont vides, malheureusement, hein. Mais bon, tant pis.
Ils ont tout mis.
Des tonneaux, une hotte, voilà. Ici, vous voyez, ils ont même repris un
bois de serre.
Un bois de serre magnifique. Et puis sur les parois, ben, tous ces personnages.
Le folaton.
Le folaton.
C'est aussi avec ces personnage qu'on faisait peur à mes tantes en disant « Ne sors surtout pas parce qu'il faut l'attendre, on te suit, ils vont venir te chercher. »
Alors ici, c'est la mort.
Alors là, on continue. Mise en scène de la mort, alors.
Des revenants.
Des revenants.
Des revenants qui
oui, on parlait des voilà, on parlait des différents personnages voilà. Qui composent ces légendes, qui les habitent aussi. Alors c'est vrai que les revenants sont un des personnages qu'on retrouve très très souvent dans ces contes et légendes.
Oui. La procession des morts, je crois que Maurice Zermatten a aussi bien écrit sûr. Là-dessus. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, effectivement, sur les glaciers, dans le Haut-Valais, enfin dans pratiquement toutes les vallées.
Les revenants, la procession des morts, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'était la Schnoogood.
C'est lié.
C'est la même chose. Ces âmes errantes qui revenaient, qui étaient d'un côté chassées du paradis pour revenir sur la terre, et sur la terre, on en avait peur, on les chassait au paradis. Et en fait, ils devaient tous être délivrés à un moment ou à un autre pour vraiment partir au paradis. Il fallait un geste humain qui les touche, qui leur parle, pour les délivrer du fait que je sais pas, ils avaient volé par exemple la sonnaille de la fameuse reine du troupeau parce qu'elle était belle. Alors, s'ils avaient l'accès ou le contact avec un humain et qu'ils pouvaient raconter ça à un être humain et que cet humain pouvait à leur place aller rendre la cloche volée, alors le revenant ou l'âme errante était enfin, avait enfin tout retrouvé la paix. Et puis vous pouvez monter au paradis.
Donc l'histoire qui sauve. Vous venez de dire quelque chose de très important, Patricia Pitelou. Si un humain pouvait raconter l'histoire, donc c'est l'histoire aussi qui sauvait l'âme.
Oui, tout à fait, oui. C'est juste. Oui, c'est juste.
Ouais. Waouh. Alors là, ici. Mais c'est vraiment une mise en scène splendide, cette cave.
Si on se tourne ici, vous voyez de temps en temps apparaître les fées. Hein. Tu parlais des lutins et des
voilà
qu'on voyait dans les forêts. Ben, vous voyez, on voit même apparaître des fées là. Là, il y a la preuve quand même. Hein, vous voyez dans les arbres.
Ça, c'est sûr, c'est des photos.
C'est des photos.
Quelques rares photos.
Quelques rares photos de fées. Alors, si les lutins disparaissent. Par rapport aux photos, les fées se laissent volontiers prendre en photo.
Oui, parce qu'elles sont plus intrigantes, elles sont plus séductrices aussi.
Certainement.
Elles essayent de charmer les hommes.
Et oui, il y a même des fées qui ont marié des hommes.
On raconte même dans différents pays que le serpent d'or couche avec des jeunes filles. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Alors là, vous voyez qu'on a voulu aussi montrer le serpent ailé qui s'appelle la vouivre, avec son œil, qui est en fait...
Son œil trésor.
Voilà, son œil trésor. Et elle garde aussi son trésor vers le près de l'eau. Et puis, en fait, on peut approcher son trésor uniquement quand elle enlève elle-même son joyau. C'est très rare, mais il y en a qui ont réussi quand même.
Et rares sont ceux qui réussissent à s'en emparer. Hein.
Voilà.
Ils deviennent eux-mêmes alors de riches hommes... Gardien à leur tour du trésor.
Du trésor. Et oui.
Et puis là, on arrive encore dans une pièce, peut-être l'avant-dernière, dirait-on. Oui. Voilà. Et chaque fois, c'est mis en scène, splendide. C'est vrai que...
On retrouve la photo, oui.
Ah oui, on retrouve la photo de la sorcière derrière. Donc, oui, difficile de le décrire. C'est un théâtre. C'est vraiment un théâtre. Mmh. Donc ici, il y a de quoi s'asseoir, en plus. Voilà. Donc, des troncs coupés, posés à même le sol. Pas trop haut. Donc, on imagine une ribambelle de gamins qui sont assis là. Mmh. Et puis, qui sont, mais toutouis.
Toutouis.
Mmh. Mais vous adorez ça, Patricia Pitelou.
Moi, j'adore ça, oui. Mais je suis une conteuse amatrice. Et beaucoup de mes contes sont en relation avec la nature. Parce que comme je suis accompagnatrice en moyenne montagne,
ah, vous les racontez à l'extérieur.
Je les raconte à l'extérieur, dans la forêt aussi, mais je peux aussi bien le faire là. Mais souvent, c'est vrai que c'est ça un lien avec la nature. Mais c'est vrai que souvent les personnages sont représentés en nature aussi. Hein. La sorcière, les revenants, la vouivre qui est au bord des lacs de Sornio, elle est aussi à l'extérieur. Hein. Mais ici, on l'a mise à l'intérieur pour la maison.
Et ces belles histoires racontées dans ces lieux tout aussi beaux, qui sont ces lieux qu'on retrouve dans la cave de cette maison à Dorena, la maison des contes et légendes d'Outre-Rhône. Ben merci pour cette balade. Hein. Du grenier à la cave, dans la maison des contes et légendes, c'est splendide. Puis là, ah.
On va passer à l'écurie.
Ah, on a l'écurie.
Mais on doit d'abord le laisser passer, lui, qui voit le dernier personnage mythique de cette maison qui va voir apparaître s'il traverse cette porte. On le laisse aller, Béatrice. Allez-y, si on voulait.
Oh là là, terrible, terrible, terrible. C'est la dure réalité face au miroir. Mais quelle aventure! Voilà, ben dis donc, rentrer dans cette cave et en sortir. Et puis alors là, on arrive à l'extérieur de la maison pour jeter un œil sur la grange.
Voilà, sur les écuries et la grange. Et vous voyez comme elles sont couvertes. Hein. Il y en a qui sont couvertes en éternite, mais ça, c'est de nouveau des petites ardoises qui proviennent de cette carrière qui est juste là en dessus.
C'est beau, ce petit Capharnaüm. Puis on voit bien la maison depuis là aussi. Hein. Merci pour cette visite. À travers les légendes, à travers les histoires, puis surtout aussi à travers cette maison et ce lieu. Hein. Alors rendez-vous à tout le monde à Dorena hein, pour venir écouter les légendes, s'inspirer de ces lieux fantastiques.